On va complètement changer d'univers avec notre dernier invité de la journée qui est mandataire judiciaire, Éric Dubreuil. Vous allez nous parler... Voilà, il arrive. Nous allez nous parler d'un sujet qui est très peu abordé, mais qui est également important. C'est celui de la protection des majeurs vulnérables. Je vous laisse vous installer. Vous avez une présentation, je crois. Hein, oui. Voilà, on compte environ 1 million de majeurs protégés et on ne le sait pas toujours, mais il existe des procédures et des instruments pour leur assurer une protection juridique et c'est ce que vous allez nous présenter.
Oui, je voudrais à nouveau féliciter les deux intervenantes. C'était absolument extraordinaire ce qu'on vient
d'entendre. Parlez bien dans le micro. Oui, c'est extraordinaire. Je suis bien d'accord avec vous.
Voilà, c'est un sujet moins souriant, au contraire, dont je voudrais vous parler. C'est la protection des majeurs. Alors, vous le savez, la maladie, le handicap, l'accident peuvent faire perdre à une personne ses capacités pour prendre soin d'elle. Et alors là, la réponse immédiatement, c'est... Il faut la protéger. Mais la protection d'un majeur, si on y regarde de plus près, on le verra dans un instant, ça consiste surtout à le priver d'un certain nombre de ses droits. Il faut dire la vérité. La tutelle, la curatelle, la sauvegarde de justice, c'est la protection des majeurs, mais c'est en même temps la liberté amoindrie pour ces personnes. Et c'est là le paradoxe. On veut protéger les majeurs, et en même temps, c'est la force des choses, on va diminuer leur pouvoir. Alors, je fais un tout petit rappel historique. Dans l'histoire de la France, il y a eu trois grandes lois sur la protection des majeurs. 1804, le fameux code Napoléon, le code civil. Vous allez voir qu'au code civil, le législateur ne prenait pas de gants. Il a écrit... Le majeur qui, dans un état habituel d'imbécilité, de démence ou de fureur, doit être interdit, même lorsque cet état présente des intervalles lucides. Vous voyez qu'à l'époque, il y a 200 ans, c'était carrément l'interdiction. Donc, dès qu'il y avait quelque chose qui allait mal, l'interdiction. Et je dis l'interdiction parce que le souci, à l'époque, c'était un souci patrimonial. Il fallait protéger les biens, il fallait protéger la fortune, il fallait protéger l'argent, et donc, dès qu'il y avait quelque chose, la démence, la fureur, il fallait immédiatement enlever la capacité à ces adultes de gérer leur patrimoine. Les années passent, les siècles passent, deuxième loi sur la protection des majeurs, 1968. Alors là, on arrive à des textes beaucoup plus modernes, et protégés par la loi... soit à l'occasion d'un acte particulier, soit d'une manière continue, le majeur qu'une altération de ses facultés personnelles met dans l'impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts. Donc là, on a une définition qui devient, encore une fois, beaucoup plus moderne et beaucoup plus juste de la situation. Mais enfin, quand même, en 68 encore, le législateur ne peut pas s'empêcher d'écrire un deuxième alinéa, peut pareillement être protégé le majeur qui, par sa prodigalité, son intempérance ou son oisiveté, s'expose à tomber dans le besoin ou compromet l'exécution de ses obligations familiales. Donc là, on retrouve tout à coup un petit côté moralisateur. Attention, si jamais il y a intempérance ou des choses oisiveté, il faudra également mettre le holà et protéger le majeur. Sérieusement, la loi de 68 a quand même tout à fait modifié les choses, vous l'avez compris. Et la troisième loi, qui date de 2007, donc ça y est, c'est l'époque du 21e siècle, on arrive à un texte extrêmement précis. Je vous le cite, c'est un tout petit peu long, il y a deux phrases. « Toute personne, dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts, en raison d'une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles, de nature à empêcher l'expression de sa volonté, peut bénéficier d'une mesure de protection. » Donc là, c'est le texte qui s'applique depuis 10 ans en France. Vous avez la définition parfaite du cadre juridique. Première chose, tout majeur avec une altération de ses facultés mentales ou corporelles médicalement constatée. Désormais, l'acte majeur, c'est le certificat médical initial obligatoire dans toute procédure de demande de protection. Et c'est un élément essentiel, puisqu'aujourd'hui, ce ne sera pas uniquement l'exposé des motifs, les dires de la famille ou des voisins, ce sera au départ une analyse médicale. Alors je m'arrête un instant sur l'examen médical. C'est un examen médical qui doit être fait pas par le médecin traitant, pas forcément par un psychiatre, mais par un médecin agréé dont le nom figure sur une liste que vous trouverez auprès du greffe de n'importe quel tribunal des tutelles. Donc, un médecin agréé et un certificat médical initial. Et c'est un élément qu'on va retrouver dans tous les outils de la protection des majeurs. Alors ensuite, le texte définit trois caractéristiques. Il faut que le majeur ait besoin de protection. Deuxièmement, il faut que cette protection soit justifiée, ce qui n'est pas déjà une première protection qui soit là du fait de la loi, par exemple des régimes matrimoniaux. Et troisièmement, que ce soit proportionné à l'état du majeur protégé. Et on va retrouver ça avec une différenciation entre les majeurs qui doivent être accompagnés, qui doivent être aidés, qui doivent être contrôlés. Ce sera ce qu'on appelle les mesures de curatelle. Vous avez un curateur à côté du majeur qui garde sa capacité d'agir. Et au contraire, les majeurs qui doivent être représentés. Représentés, ça veut dire la tutelle. Et dans la tutelle, le tuteur, comme vous le savez, est quelqu'un qui va prendre la main, qui va représenter désormais le majeur dans les actes de la vie civile. Troisième élément dans la loi de 2007, c'est une différenciation entre la protection de la personne et la protection des biens. On a abandonné l'idée du 19e siècle et du 20e siècle qui était une idée uniquement tournée vers le patrimoine, la défense patrimoniale, la défense des biens. Maintenant, on parle de la protection également de la personne. Et quelle que soit la situation du majeur, il y a toujours un élément qui sera incontournable, infranchissable, qui sera la limite des droits de cette personne. La loi a voulu que cette personne soit toujours considérée comme ayant une certaine dose de capacité. Alors, j'en viens maintenant peut-être à un autre élément. On va reprendre un instant. Quelle est la procédure qui conduit aujourd'hui une demande de protection ? Une demande de protection, ça met en place trois personnages. Un demandeur, le juge des tutelles et le médecin. Le demandeur va faire ce qu'on appelle une requête, et dans cette requête, il va exposer quelle est la situation du majeur, quel est l'historique, quels sont les faits constatés, quelle est sa maladie, etc., etc. Ensuite, il va joindre le certificat médical dont j'ai parlé, qui sera sous pli fermé et qui sera remis au juge avec la requête. Donc le juge va se trouver sur son bureau avec deux éléments, la requête, qui peut provenir de la famille, d'un voisin, du procureur de la République, bref, une requête, et deuxièmement, un certificat médical. Et en fonction de ces deux éléments, le juge va prendre connaissance du dossier et va décider d'entendre les différentes personnes. C'est plus l'époque des lettres de cachet, j'allais dire, on dit qu'il faut absolument enfermer quelqu'un. Là, il va considérer qu'il faut d'abord entendre les personnes. D'abord le majeur, si c'est possible de l'entendre. Quelquefois, ce ne sera pas le cas. Mais il doit quand même essayer de l'entendre. Il va entendre les membres de la famille qui sont autour. Il va entendre le demandeur. Il va entendre le médecin. Il va avoir en main tous les éléments lui permettant finalement de prendre sa décision. Ça, c'est un chemin que vous allez retrouver dans tous les outils. Là, le juge, il peut maintenant prendre trois décisions possibles. Premièrement, refuser la protection parce qu'il considère que, ce monsieur a 85 ans, il est un peu extravagant, il fait quelquefois des achats un petit peu bizarres, mais enfin, il n'y a pas besoin de le mettre sous curatelle ou sous tutelle. Voilà, c'est un monsieur un peu original. J'écarte ce sujet, mais ça existe quand même. Deuxième cas de figure, il va considérer qu'effectivement, il y a besoin d'une mesure de sauvegarde. Alors, la curatelle, vous l'avez compris, c'est la mesure la plus simple, dans la mesure où elle permet de laisser au majeur une certaine dose d'autonomie de gestion. Mais un certain nombre des actes de ce majeur devront être contrôlés et co-signés par le curateur. Ça, c'est ce qu'on appelle la curatelle simple. Deuxième cas de figure, la curatelle renforcée. Dans cette hypothèse, le curateur est également à côté du majeur pour l'accompagner et le protéger et le contrôler. Mais là, le contrôle sera beaucoup plus fort, puisque dans la curatelle renforcée, le curateur a la main sur des éléments clés, tous les revenus et toutes les dépenses qui passeront par lui. Donc vous comprenez que dans la curatelle renforcée, le majeur sous protection est un majeur qui est quand même un tout petit peu contraint, avec à côté de lui un curateur qui va, encore une fois, recevoir tous les revenus et faire droit à toutes les dépenses. D'accord ?
Et dans la curatelle simple, alors, dans ça la curatelle se limite simple, à quoi ?
La curatelle simple, le majeur reçoit ses retraites, reçoit ses revenus, reçoit ses subventions, reçoit ses allocations, et puis fait face à ses dépenses, l'eau, le gaz, l'électricité, le téléphone, comme vous et moi. Dans la curatelle renforcée, tous les revenus viendront entre les mains du curateur et toutes les dépenses seront faites par le curateur pour le majeur. Élément ultime de la protection, le juge considère qu'il ne faut pas seulement contrôler et accompagner le majeur, il a besoin d'être représenté. Cette représentation, ça signifie que le tuteur est désormais en charge de la gestion du patrimoine du majeur et est également en charge, sauf si le juge en a décidé autrement, du contrôle de sa personne. Donc vous avez là l'acte ultime par lequel la protection est assurée. Curatelle, curatelle simple, curatelle renforcée, tutelle. Alors, dans les protections judiciaires, il y a un autre instrument qui a été créé il n'y a pas très longtemps, il y a 5 ans, en 2015. C'est ce qu'on appelle l'habilitation familiale. L'habilitation familiale est également un instrument judiciaire. Il va faire appel au juge des tutelles. Mais, grande différence, le juge des tutelles va avoir une tâche simplifiée. Pourquoi ? Parce que l'habilitation familiale n'est possible qu'à deux conditions. Il faut que tous les membres du premier cercle familial du majeur concerné soient d'accord sur deux points. Il faut protéger M. Dupont, et nous sommes d'accord pour que M. Dupont, sa gestion de ses affaires, soit assurée par Xavier Dupont, le petit-fils. Donc vous l'avez compris, il faut qu'on soit en face d'une configuration familiale qui est d'accord. Au moins, personne ne s'y oppose, c'est la règle. Donc le juge, il va comprendre qu'il est face à une fratrie dans laquelle tout le monde est d'accord. Il y a un membre de la famille qui a besoin de protection, tous les membres de la famille sont d'accord, et ils sont également d'accord pour que cette protection soit exercée par un tel et un tel. Donc il a avec lui un dossier facile à gérer. Plus facile à gérer, en tout cas, que si c'était un dossier traditionnel. Et à ce moment-là, l'habilitation familiale, quand elle est prononcée par le juge, sera beaucoup plus facile à gérer par la famille. Vous n'aurez, d'abord, ce sera une habilitation familiale pour 10 ans, alors que tutelle et curatelle sont uniquement pour 5 ans. Deuxièmement, la famille n'aura pas à rendre des comptes tous les ans et tous les 5 ans, comme c'est le cas en tutelle et en curatelle. Il n'y aura pas une gestion comptable et administrative compliquée, il n'y aura pas à rendre compte au juge toutes les 5 minutes, donc ce sera beaucoup plus souple au point de vue gestion. Donc ça, c'est un quatrième instrument, curatelle simple, curatelle renforcée, tutelle, habilitation familiale. Mais dans l'habilitation familiale, comme dans tout ce que je vous ai dit avant, vous l'avez compris, il faut le médicalement constater. Donc il faudra quand même que la famille se présente avec une requête en habilitation familiale à laquelle sera jointe le certificat médical initial qui va donner au juge l'examen clinique du majeur dont on parle. D'accord ? Donc ça, ce sont les instruments de la protection des majeurs. Maintenant, comment va se passer la vie quotidienne de la protection des majeurs ? Dans l'habilitation familiale, vous l'avez compris, les familles sont d'accord. Donc, ils sont déjà d'accord pour dire que c'est dans la famille un tel et un tel qui s'occuperont de tels grands-parents. En revanche, dans la procédure traditionnelle, tutelle ou curatelle, le juge, quand il prend sa décision, soit tutelle, soit curatelle, devra décider de qui est le curateur ou qui est le tuteur. Et là, pardon, le juge doit privilégier les solutions familiales. Ce n'est pas toujours le cas. D'abord, il peut y avoir des situations familiales dans lesquelles les conflits sont tels que le juge se dit qu'il ne faut surtout pas nommer un membre de la famille parce que ce sera désespéré et qu'il vaut mieux faire appel à un tiers. Puis quelquefois, il n'y a pas de membre de la famille pour s'occuper de la personne. Donc à ce moment-là, le juge a recours pour l'administration soit à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, donc qui était une personne indépendante pour la gestion de ces personnes, soit à une association tutélaire. Dans les associations tutélaires, vous avez à ce moment-là des salariés de ces associations qui ont les mêmes diplômes que les mandataires judiciaires, mais qui sont salariés d'une association et qui auront donc en charge un certain nombre de dossiers personnels à gérer. Donc, dans la vie quotidienne, soit quelqu'un de la famille, obligatoirement si c'est l'habilitation familiale, soit également en cas de tutelle ou en curatelle, mais si ce n'est pas le cas, une personne externe. Est-ce qu'il me reste 2 minutes ?
Oui, il vous reste 5 minutes.
Alors, ce sera pour vous dire 2 mots d'un outil extrêmement intéressant, qui est en petit développement, mais je pense qu'il sera en développement plus certain dans le futur. Ça s'appelle le mandat de protection future. Le mandat de protection future, on n'est pas dans le cadre judiciaire. C'est un contrat de droit privé. Le contrat de droit privé, il met en présence 3 personnages. Une personne pleine capacité de ses moyens, mais qui se dit qu'un jour, peut-être, les choses ne sont pas pareilles et qu'il faudra peut-être que quelqu'un s'occupe de lui parce que ses capacités sont amoindries ou même totalement diminuées. La personne qu'il a choisie pour le futur pour s'occuper de lui et de ses affaires. Et puis le notaire, parce que la plupart du temps, quand même, vous pouvez faire ça par un acte notarié. Donc ça veut dire quoi ? Ce n'est pas un testament. C'est simplement le fait de choisir à l'avance le jour où j'irai mal, qui va s'occuper de moi, de mes affaires et de mon petit chat. On peut mettre dans le mandat de protection future tout ce qu'on veut. Il faut simplement expliquer quels sont ses choix pour l'avenir. Chaque 1er novembre, je veux aller au Mont-Saint-Michel. Bon, si mes moyens le permettent, il faut que la personne qui s'occupe de moi dans le futur fasse que le 1er novembre, j'aille au Mont-Saint-Michel. Encore une fois, vous décidez de la gestion de vous et de votre patrimoine. Vous le faites devant notaire, vous mettez ça dans un document qui est mis dans un tiroir. Puis les années passent et peut-être qu'un jour, effectivement, vous allez un peu moins bien. Donc à ce moment-là, le mandataire que vous avez choisi fait quoi ? Il vous fait passer un examen médical. Si cet examen médical conclut effectivement à une chose simple, c'est que vous avez effectivement des capacités amoindries, on ressort le document du tiroir du notaire, on y met le certificat médical, avec les deux, on va au greffe du tribunal des tutelles qui donne un visa sur le mandat et votre mandataire prend le volant. Donc vous avez défini à l'avance les solutions que vous vouliez voir adopter pour votre vie, et c'est à ce mandataire d'exécuter vos volontés. Et je crois que c'est un élément qui, dans le futur, sera de plus en plus partagé. D'abord parce que on a vu tout à l'heure des images terribles de personnes âgées, et les personnes âgées, face à la gestion de leur personne et de leurs biens par quelqu'un d'extérieur à la famille, c'est quelque chose de traumatisant, c'est quelque chose de difficile à accepter. Et donc, ce sujet devient très douloureux dès qu'on commence à comprendre que sont en jeu des personnes dans tout ça. Et le tuteur, le curateur, ce sont des mots juridiques, encore une fois, très sévères quelquefois pour la vie de personnes malades. Donc le mandat de protection future, c'est en tout cas la certitude pour une personne qui est encore en pleine possession de ses moyens de se dire, voilà, moi, quand ça va mal, je veux que ça se passe comme ci et comme ça, je veux que ce soit telle personne qui le fasse, et c'est écrit noir sur blanc.
Et il est possible de nommer plusieurs personnes dans ce mandat de protection future, ou c'est un seul nom ?
Alors, vous pourriez effectivement choisir un mandataire qui soit un double mandataire. Je m'explique, si vous avez, une ferme avec 3 vaches et 1 hectare de blé d'un côté, et puis un appartement à la montagne de l'autre, vous pourriez dire que l'un s'occupe du chalet et l'autre s'occupe... vous pouvez tout à fait choisir dans vos mandataires l'un qui fait ceci et l'autre qui fait cela. C'est tout à fait possible. Vous pourriez choisir que l'un s'occupe de vous à titre personnel et l'autre s'occupe de votre patrimoine. À chaque fois, ça dépend un petit peu de la situation patrimoniale des gens.
Est-ce que c'est une bonne réponse à la question « Peut-on priver de liberté un majeur, liberté d'expression, liberté de décision et comment par avance s'en protéger ?» Peut-on priver de liberté un majeur de sa liberté d'expression et de décision et comment peut-on par avance s'en protéger ?
Alors, peut-on priver un majeur ? La loi est là. La loi est là. Si vous avez quelqu'un qui fait l'objet d'un signalement auprès du procureur de la République parce qu'il a des attitudes, des actes, des expressions, qui font supposer qu'il a perdu une partie de ses capacités intellectuelles ou physiques, le procureur peut décider de demander l'ouverture d'une protection. Donc, est-ce qu'on peut être privé ? Oui. À partir du moment où il y a une demande de protection qui est faite auprès du juge des tutelles, que cette requête a été accompagnée d'un certificat médical, il faut qu'il y ait eu ce certificat. Il n'y aura aucune protection d'accorder si vous n'avez pas côte à côte une requête et un certificat médical. Donc, on ne peut pas priver quelqu'un aujourd'hui, on ne peut pas le mettre sous protection s'il n'y a pas ces 2 éléments. Alors, évidemment, il y a quelquefois des choses extrêmement surprenantes qui peuvent avoir lieu. Des personnes âgées qui refusent de recevoir le médecin, qui ne veulent pas aller le voir, etc. Donc, on a vu des cas de figure dans lesquels le certificat médical initial a été rédigé dans des situations un peu rocambolesques. Mais si vous n'avez pas une requête et un certificat médical, il n'y aura jamais de protection accordée par un juge.
Et il peut y avoir des contre-expertises médicales si on n'est pas d'accord avec le premier. Est-ce que, quand vous parliez de famille qui se déchire, on imagine bien qu'il y a des situations compliquées.
Toutes les situations sont malheureusement compliquées. Ce que je peux dire, c'est que la règle, le droit, la procédure civile est extrêmement claire. Il faut que le certificat médical émane d'un médecin qui figure sur la liste des médecins agréés tenus par le procureur de la République, du greffe, du tribunal où a lieu l'instance. Donc il y a une liste, si docteur Dupont est sur cette liste, si le docteur Dupont rédige un certificat médical, ce certificat médical est joint à une requête, il aboutit sur le bureau d'un juge qui en prend connaissance du dossier médical, quelle est la situation de telle personne, quelle est l'évolution possible de sa maladie, vers quoi arrivera-t-on sans doute bientôt, il peut prendre une mesure de protection, mais à la condition que...
C'est très encadré. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Merci, Éric Dubreuil.